Conduis-nous, Seigneur, dans cet instant, qu'il y ait des pensées de Dieu qui soient données. On croit que tu es un Dieu vivant et que tu te plais à parler. Alors, Seigneur, donne-nous l'écoute et l'oreille attentive pour recevoir de toi une pensée et que personne ne se prive de la parole de Dieu ce matin. Nous te louons pour ce que tu vas faire. Parle avec puissance et force au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, je suis heureux ce matin de vous voir. On était déjà très nombreux au premier culte. On est en grosse difficulté ce matin. Il y a tellement de monde, notamment à cause de l'Assemblée Générale. Si certains n'ont pas été à cette Assemblée Générale et que vous voulez être membre de cette Église, inscrivez-vous en ligne sur Internet. On a une tellement forte croissance dans l'Église, on ne va pas aller vous voir individuellement, c'est à vous de faire le pas. Et vous savez, quand on a des responsabilités, il faut les assumer. Quand vous avez un désir, il faut l'assumer si c'est pour Dieu. Il y a un appel de Dieu sur votre vie, pour beaucoup d'entre vous. Ne le gâchez pas. Nos jours sont courts. Faisons vraiment ce à quoi Dieu nous appelle. Et on va ouvrir ensemble notre Bible dans le livre des Juges, au chapitre 4. Et pendant que vous cherchez, je remercie la vidéo pour leur préparation en bande-annonce.
Le temps des juges. La Bible nous dit qu'à cette époque-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Les hommes et les femmes d'alors gâchaient la liberté que Dieu leur avait donnée. En effet, ils ont préféré satisfaire leurs besoins égocentriques. Et ils en ont payé le prix fort. Mais dans son amour, Dieu fit lever des hommes et des femmes ordinaires pour sauver son peuple de façon extraordinaire. Ce sont les juges. Déborah osera-t-elle se lever malgré les difficultés de son quotidien pour devenir un leader exemplaire quand d'autres fuient leurs responsabilités? Gédéon saura-t-il surmonter ses complexes pour devenir un leader exemplaire face à la tentation de l'argent? Samson saura-t-il surmonter son passé d'homme trompé pour devenir un leader exemplaire face à la tentation du désir? Et enfin, Jephté saura-t-il surmonter le rejet dont il a souffert pour devenir un leader exemplaire face à la tentation de l'isolement? Au temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et toi aujourd'hui, comment vas-tu utiliser la liberté que Dieu t'a donnée? Vas-tu en profiter pour faire n'importe quoi? C'est sûr que le fait d'être un leader implique des responsabilités. Et on a toujours tendance à croire que c'est les autres. Parce que soit on fait un petit complexe d'infériorité, ça dépend des moments, et puis on ne réalise pas. Mais pour une maman dans cette salle, la famille que Dieu t'a confiée, ben c'est du leadership. Pour un papa dans cette salle, si Dieu t'a donné une famille, il serait temps que tu te lèves. Pour ceux qui sont célibataires et qui ont de la famille qui ne connaît pas Dieu, vous avez un rôle de leader. Sauf que quand on est leader et qu'il y a beaucoup de difficultés, il est tellement plus simple de fuir ses responsabilités. Le thème d'aujourd'hui, c'est Déborah. On va étudier ce personnage dans le livre des Juges, au chapitre 4. Déborah osera-t-elle se lever, malgré toutes les difficultés de sa vie, pour devenir un leader exemplaire, alors que d'autres fuient leurs responsabilités? Juges 4, verset 1er. Vous voyez où est le livre des Juges dans la Bible? Le livre des Juges, c'est juste après l'Exode et le temps de la conquête avec le livre de Josué. C'est-à-dire, regardez comme ça ressemble à notre société aujourd'hui. Au temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. En 2013, c'est tellement vrai, aussi bien dans la société que dans nos églises, chacun fait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et la possibilité de la liberté, c'est extraordinaire. Ça te permet de faire des choses merveilleuses. Le fait que tu sois libre, c'est merveilleux. Mais le fait que tu sois libre te donne aussi la possibilité de faire n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé au temps des juges. Ils sortent d'Égypte où ils avaient des contrôleurs, où ils avaient une armée qui était en train de les oppresser. Un Israélite à cette époque-là ne pouvait pas épouser une femme. Il devait d'avoir obtenir l'accord de sa hiérarchie égyptienne. Lorsqu'il voulait un travail, lorsqu'il était esclave, il n'avait rien à dire. Il faisait ce qu'on lui disait. Et vous savez pas quoi ? Ça marche ! Et beaucoup de chrétiens, dans des églises, même si on se dit libéré, des fois, les églises sont extrêmement totalitaires et elles vous donnent des consignes. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. T'appliques les règles. Mais je lis dans la Bible toute l'histoire de l'humanité. Depuis le premier moment dans le jardin d'Éden, Dieu a une église avec deux membres. Adam et Ève. Deux membres. Le meilleur des pasteurs, le meilleur des bergers, Dieu lui-même. Tous les jours, il passait un temps avec eux. Et dans ces deux membres, un jour, les deux sont dehors. Et Dieu n'a pas mis dans le cerveau de Adam le fait d'être un robot. Il lui a donné la possibilité dès le début de faire le bien ou le mal. Et je peux vous dire, mes amis, c'est merveilleux, c'est un cadeau de Dieu, la liberté, mais c'est très dangereux. Parce que la liberté, vous pouvez la gâcher, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez faire n'importe quoi par rapport à votre conjoint, vous pouvez le quitter, vous pouvez partir, vous pouvez commettre un adultère, vous pouvez aller faire ce que vous voulez. La liberté, c'est la possibilité de faire n'importe quoi sur vos finances. Vous pouvez donner un peu, beaucoup, passionnément ou rien du tout. Vous pouvez être sérieux dans vos déclarations fiscales, vous pouvez être sérieux ou pas dans la façon de parler à votre voisine, vous pouvez être sérieux ou pas, vous avez chaque jour la possibilité. Parce que Dieu vous voulait libre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Depuis la création du monde, même si on le critique ou pas, Dieu a dit « Je vous laisse libre ». Et cette liberté, comment vas-tu la gérer ? C'est le thème qu'on va voir pendant les 4 prochains dimanches sur « Au temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Il est temps d'être mature, mes amis, parce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient des mères, des pères spirituels. Après la mort d'Éhoud, verset 1er, les Israélites commencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville d'Atsor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Harosheth-Goyim. Yabin possédait 900 chars bardés de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. 20 ans de misère, mes amis. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. À cette époque-là, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous un palmier qui, depuis lors, porte son nom entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leur litige. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, en Nephtali, et lui dit « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. » Je mènerai au torrent de Kishon Sisera, donc c'est le chef de l'armée ennemie, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars, ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. Mais Barak répondit à Déborah, si tu m'accompagnes, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, j'irai pas. Sois, lui répondit-elle, j'irai avec toi. Mais sache que ce n'est pas à toi. Que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livra Sisera. Déborah se mit donc en route pour se rendre avec Barak à Kadesh. Celui-ci convoqua les tribus de Zabulon et de Nephtali, et 10 000 hommes le suivirent, et Déborah partit avec lui. Je suis incroyablement impressionné par cette femme qu'est Déborah. Une femme qui va prendre ses responsabilités quand d'autres vont les fuir. Qui êtes-vous ce matin ? Quel est votre caractère ? Est-ce que vous êtes une femme ou un homme qui prend ses responsabilités ou bien est-ce que vous les fuyez ? Lorsqu'ils arrivent dans le pays d'Israël, lorsqu'ils arrivent dans le bon pays de la promesse, libéré. Un Israélite arrive et puis il se dit « Bon, il faut que je trouve un travail, je vais demander à un Égyptien. » Il n'y a plus d'Égyptiens, mes amis. Eh ben, il va falloir que je m'y mette tout seul alors. Que je plante une vigne. Que je retourne la terre. Je vais essayer de trouver un hôtel, je vais essayer de trouver un appartement quelque part en Égypte. Ben non, tu vas devoir la construire ta maison. Librement. Mais ça fait peur, mes amis. Quand vous avez vécu pendant des années avec quelqu'un qui vous donne des ordres, la liberté, c'est extraordinaire. Vous allez crier sur les Champs-Élysées pendant quelque temps, mais le lendemain, vous réveillez. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu es un chrétien, tu as été sauvé par grâce. Avant, tu vivais, tu étais prisonnier de tes passions. Jésus-Christ est venu, il a dit, vas-y, sois libre maintenant. Je te libère, vis ta vie. Je te donne, allez, 80 ans sur la terre pour que tu fasses un maximum de choses qui me plaisent et que tu aies une vie abondante et riche. Et puis les chrétiens, souvent, en profitent pour faire n'importe quoi. Dans le livre des Hébreux, il est dit, c'est un sujet sur lequel nous avons bien de choses à vous dire, qui sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Et là, je parle à quelqu'un qui a des années de conversion ce matin. Or, vous avez besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Vous en êtes venu au point d'avoir besoin non d'une nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique, pas seulement des paroles, par leur vie. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Je cherche aujourd'hui à savoir dans cette salle, et je vous pose la question, si vous écoutez ce message aussi par Internet, est-ce que vous êtes connu comme quelqu'un qui prend ses responsabilités? Vous allez me dire, pasteur, ça veut dire quoi? Est-ce que vous vous levez quand il y a un besoin quelque part? Est-ce que vous êtes sérieux dans la façon de gérer votre vie? Qu'est-ce que vos amis pensent de vous par rapport à votre parole? Est-ce que votre parole, elle est digne de foi ou pas? Est-ce que vous êtes sérieux ce matin? Vous êtes levé pour être dans la maison de Dieu? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'être sérieux dans votre engagement avec Dieu? Est-ce que vous êtes sérieux dans votre culte personnel? Est-ce que vous êtes sérieux par rapport à vos dîmes, vos offrandes? Est-ce que vous êtes sérieux par rapport à la façon dont vous parlez à vos enfants? Oh, vous savez, je ne veux pas vous faire la morale ce matin, parce que je me mets moi-même en cause. J'ai pris une leçon cette semaine. Je parlais avec ma maman, qui est une femme de Dieu extraordinaire. Ma mère a des fils qui ont fait des études et une fille qui ont fait tous des grandes études. Mais vous voyez, il n'y a aucun qui s'est éloigné de Dieu. On a tous choisi, tous les quatre, de rester fidèles à Dieu. Et on a tous une vraie communion avec Dieu. Ça, c'est génial. Et ça fait la joie de ma maman. Mais je suis sûr que ça a demandé du sérieux de sa part. Et ce jour-là, elle m'appelle au téléphone et je lui dis « Ah, maman, ça va bien, je suis en vacances dans le sud avec Ethan pendant quelques jours. » Et elle me dit « Mais tu parles de Dieu à Ethan ?» J'ai pas vu venir ça, mes amis. J'ai pas vu venir le truc. Je dis « Mais maman, il a 2 ans et demi !» Je dis « Mais tu lui racontes pas des histoires à Ethan? Tu lis pas des Martines avec lui? Tu lis pas des livres? Et t'es pas capable de lui parler de Dieu ?» Elle a pas osé me dire « Et t'es pasteur en plus ?» Vous voyez, être un père spirituel, il suffit pas d'avoir le titre. Hein. Elle me dit « Moi, je te dis, mon gars, que quand t'étais petit, tu venais dans ma chambre, hein, on ouvrait ensemble, pas forcément un texte, mais on ouvrait la Bible en bande dessinée, et je te racontais les histoires de la Bible. » Soit je réagis comme un orgueilleux, je dis « Eh maman oh !» Non, j'ai rien dit. J'ai dit « Je le fais. À partir de ce soir, je le fais. » Le soir, c'était une expérience. Je suis allé voir Ethan dans son petit lit. 2 ans et demi, c'est chaud. Et je me suis dit, si Dieu m'a donné le titre de papa, si Dieu t'a donné la famille qui t'a donné, t'a donné les moyens d'être sérieux avec. J'ai pris mon courage, je suis allé voir Ethan dans son petit lit à barreaux, et je lui ai dit, Ethan, je vais te raconter une histoire de la Bible. Je vais te raconter l'histoire de Daniel. Pour Ethan qui écoute, c'est bon. Je lui ai dit, Ethan, un jour, il y avait un monsieur, un roi méchant, il a jeté Daniel
dans un trou où il y avait des lions. Ethan, il est à fond dedans. Les lions, il les voyait en 3D. Sans écran 3D, il les voyait en 3D. Et j'ai dit, et Daniel, il avait peur que les lions le mordent. Ah oui, oui, je vous dis à fond. J'ai dit, écoute, Ethan, comment il a fait pour pas que les lions le mordent? Je vois mon fils qui réfléchit. J'ai dit, il a fait ce que papa et Ethan doivent faire. Il a prié. Il s'est mis sur ses genoux et il a dit, Dieu, tu fermes la bouche des lions. Je voyais Ethan, je peux vous dire, après, il priait. Hein. Parce qu'il y a un papa qui, enfin, après pas mal de retard, commençait à prendre ses responsabilités. Et qu'est-ce que j'en sais, moi, qu'un jour, quand il ira pas bien, que je serai peut-être plus sur la terre, il sera lui aussi dans une fosse où il y a des lions autour de lui, et il dira, à l'époque où j'avais mon papa, où il y avait des pères en Israël. Alors commence à prendre tes responsabilités. Quel que soit ton niveau de leadership, commence à prendre tes responsabilités dans ton entreprise, commence à prendre tes responsabilités de chrétien dans ta famille, commence à prendre tes responsabilités de chrétien dans l'église. Oui, mais pasteur, première excuse, ça va tellement pas bien. Vous savez, au temps de Déborah, il n'y avait rien qui allait. Le contexte extérieur, c'est des viols, des pillages. Il est dit dans le texte qu'il y avait 900 chars de guerre bardés de fer. En fait, Hatsor, le roi, il ne s'embêtait pas, hein, il ne s'amusait pas à conquérir le pays d'Israël. Il venait simplement les piller, les violer et il repartait. Et c'est pour ça qu'un peu plus tard, dans le cantique de Déborah, elle dit y en a qui vont pleurer du pays d'Hatsor parce qu'il ne va pas y avoir les captifs qui reviennent comme d'habitude. Vous imaginez ce que ça veut dire derrière, hein? Et Déborah, dans cet environnement où tous les autres abandonnent la foi, des fois je crois que dans les églises, quand même la foi, elle est bien faible. Hein. Et à ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon, et la majorité, libre, a choisi de ne pas être sérieuse. Enfin, pas qu'elle a choisi, mais elle s'est laissée glisser. Vous savez, pour ne pas être sérieux, il suffit simplement de ne rien faire. Vous vous laissez glisser, vous êtes fatigué le soir, vous ne lisez pas votre Bible. Vous êtes fatigué le matin parce que vous n'êtes pas bien réveillé, vous ne lisez pas non plus, vous ne priez pas non plus. Puis vous allez trouver 1000 excuses, puis le jeudi soir vous êtes trop fatigué pour aller à la réunion. Et puis après, au moment des offrandes, de toute façon vous n'arriverez pas à finir le mois, donc ça ne sert à rien de donner sa dîme. D'abord on ne la donnera pas, puis en fait on ne la donne jamais. Et puis après, à l'église, il y a forcément quelqu'un qui va se lever, puis tout bien, je ne suis pas indispensable, et puis ceci, et puis ça. Donc tu as 1000 bonnes excuses. Et ça ne va pas. Et Déborah va-t-elle se lever? Déborah, tu as 900 chars de guerre, des incursions tous les jours, elle va se mettre dans un endroit en Israël en disant « il n'y a plus d'État ». Je ne sais pas, pour tous nos frères et nos sœurs qui viennent d'Afrique, un des gros problèmes, c'est que c'est le grand n'importe quoi quand il n'y a plus d'État. Quand il n'y a pas de police, quand il n'y a pas de justice, quand il n'y a que des clans, des groupes, des incursions, etc. C'est l'horreur, c'est ça qui détruit l'Afrique. C'est que chacun fait ce qui lui semble bon. Et c'est un peu pareil en Europe de nos jours, hein, de plus en plus. Déborah va se dire, je vais prendre un risque, je vais m'installer à un endroit stable où tous les jours le peuple pourra venir me trouver. Je vais me mettre sous un arbre, un palmier, dans une région de montagne et je vais chercher à faire du bien pour le peuple. Ouh ! Vous savez quel est le travail qu'elle a choisi ? Juge. Assistante sociale, quoi. C'est pareil. Vous imaginez tous les jours, là je parle de sa situation personnelle, tous les jours des personnes qui viennent, oui je comprends pas pourquoi ma voisine elle a volé les deux poules que j'avais. D'accord, on va régler le problème des poules. Oui mais un tel il a parlé de moi méchamment et du coup ma réputation est... D'accord, on va trancher. Et puis des fois vous avez des cas super lourds, quelqu'un qui vient avec des blessures extrêmement profondes, des meurtres, des viols, vous écoutez ça en longueur de journée, vous êtes... Ah, le premier jour, vous vous sentez utile. Demain, je ne sais pas s'il y a des... Toutes les personnes qui ont un rôle de conseil, que vous soyez assistante sociale, professeur, infirmière, etc., dans cette salle, vous savez ce que je veux dire. Dès que vous avez des responsabilités, vous écoutez les gens, au début, vous dites « Waouh, c'est le job parfait, quoi ! Je fais du bien !» Au bout d'une semaine, à entendre les plaintes, les gémissements, les râleurs, les jamais contents, les pénibles, les filous, les tordus, les...
Et puis des fois, vous ne pouvez rien faire en plus. Parce que quand vous êtes assistante sociale avec la personne, vous avez envie de lui donner 1000 euros pour qu'elle puisse s'en sortir. Mais vous ne les avez pas, les 1000 euros. Et Déborah, des fois, elle est dans des situations où elle ne peut pas sauver la personne en face. Donc progressivement, ce travail qui est un travail génial, mais il vous use, il vous vide. Et ce qui était formidable au bout d'une semaine, est-ce que vous allez le tenir pendant des années? Et Déborah a tenu pendant des années sous un arbre à essayer de trancher des litiges. Bravo! Pourquoi c'est Déborah d'ailleurs? Dans une société aussi machiste. C'est pas où sont les femmes, c'est où sont les hommes? Alors on a une petite idée. Avec le nom du mari de Déborah, je trouve ça trop bon. Je me demande si c'est fait exprès. Vous savez qu'il y a de l'humour dans la Bible. Cette Bible, elle est géniale. Et en fait, le mari de Déborah, il s'appelle Lapidote. Vous avez... Non, regardez. Si. Oh, je sais que c'est peut-être pas très, très, très moderne, mais jugez pas parce qu'à l'époque, ça devait être le top de la mode. C'était aussi bien qu'Ethan, peut-être. Lapidote. Je cherche un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire, Lapidote? Éclair. D'accord? C'est quelque chose qui est capable de briller. Très fort, mais pas longtemps. C'est quelque chose qui vous en met plein les yeux. Vous êtes marié. Moi, j'ai vu mon homme un jour, il a fait une prière de 4 km de long un dimanche matin. C'était magnifique. Depuis, il a quitté l'église. Mais bon, c'est un éclair. C'est un éclair. Vous êtes marié avec un éclair. Ah, il a brillé courtement. J'espère que vous avez pris la photo, hein. Il y a beaucoup d'hommes comme ça. On se lance un jour. Il était sincère au moment où il a brillé. Mais c'est bien les éclairs. Mais Dieu ne t'a pas demandé d'être l'éclair du monde. Il t'a demandé d'être la lumière du monde. Et une lumière, elle continue à briller. Un éclair, pif, c'est plus puissant. Mais ça ne dure pas longtemps. Est-ce que tu comprends ce que Dieu pense de toi ce matin? Est-ce que tu es un éclair? Et je te dis, est-ce que tu es marié à un éclair? Parce que si tu es marié à un éclair, Dieu ne te demande pas d'hurler et de râler sur ton éclair. Il dit, toi, prends tes responsabilités, sois la lumière. Et Déborah, c'est peut-être son mari qui aurait dû être juge, mais en tout cas, il n'était pas là. Il avait brillé, puis c'était éteint. Mais elle, tous les matins, elle se levait, elle s'installait. Elle l'écoutait et elle cherchait Dieu parce qu'elle était prophétesse. Ça veut dire qu'à l'époque, c'est partie des rares personnes qui se sont dit, avant de parler, je vais d'abord écouter Dieu. Est-ce que dans cette salle, il y a des personnes qui font le travail d'écouter Dieu, de chercher le conseil de Dieu? Parce que c'est ça qui te rend aussi légitime. Ouh, ça commence à devenir chaud, mes amis. La parole, elle parle. J'ai lu une phrase, je voudrais vous la dire, je ne sais pas si vous allez pouvoir la digérer en quelques instants. Le vrai leader ne se préoccupe pas du succès, il se préoccupe des personnes. Le vrai leader ne se préoccupe pas du succès, je n'ai même pas dit de son succès, parce que des fois on peut être un leader pour une entreprise, pour une église, vouloir qu'elle grandisse. Non, Dieu ne t'a pas demandé cela, il t'a demandé d'aimer les gens. Dieu ne t'a pas demandé d'avoir une famille dans laquelle tous les enfants ont un bac plus 5, il t'a demandé d'aimer tes enfants. Il ne t'a pas demandé de faire un service à l'église où ils sont tous là en disant wow, « Waouh, quelle jolie voix !» Il a demandé de, quand ça te coûte, tu te lèves pour Dieu et tu sers. Tu aimes les gens. J'entends plus beaucoup d'amen, mais je pense que vous êtes encore là. Je peux creuser un petit peu. Je voudrais parler de. J'ai parlé de Déborah, ce travail d'assistante sociale, mais vous tous qui êtes en contact avec quelqu'un à qui vous devez parler. Des fois, vous êtes assistante sociale de votre sœur, hein. On se comprend, hein? Tous les deux jours, elle appelle. Et... Bon. Mais je pense que plus vous avez des responsabilités, là, ça devient, là, je parle vrai ce matin, plus vous avez des responsabilités, moins vous avez d'amis. Je suis très étonné, mais j'étais à une pastorale où j'avais des pasteurs anciens. C'est un des pasteurs les plus anciens, plus légitimes, qui disait comme ça, un pasteur, au bout de quelques années, n'a plus d'amis. Ça fait bizarre, hein? Ça ne m'a pas encouragé. Mais ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour avoir des amis que je suis devenu pasteur. Je suis venu pour que Jésus ait des amis. Et ce pasteur disait, c'est logique, parce qu'il faut être droit, il faut être juste. Un juge, est-ce qu'il peut avoir des copains? Bah, on se dit au début, bah, pourquoi pas? Mais dans la vérité, c'est exactement ça qui crée tous les mafias. Parce que le copain, il vient en disant, « Hey, Déborah, c'est la voisine, à l'histoire des deux poules. Hein. Franchement, sois gentil sur le jugement. Hein. Tu sais, on est amis tous les deux. » Et là, vous commencez légèrement à décaler la justice. Parce que vous avez des amis. Mon proviseur au lycée, c'est un homme juste, il n'a pas d'amis. Il ne peut pas avoir vraiment d'amis. Parce qu'il les note, les gens. Il me note. Et c'est très difficile. Plus vous avez des responsabilités, réfléchissez bien, vous qui voulez des postes de responsabilité. Parce que plus vous avez des responsabilités, moins vous aurez des amis sur la terre et plus vous avez intérêt de nourrir votre manque, parce que c'est un manque, hein, en étant ami de Dieu. Ouh. Je prenne la prédication moi-même pour que je la réécoute un jour et qu'elle puisse me parler. Et puis pour terminer, pour Déborah, cette femme exceptionnelle, terminer sur le premier point. Moi, ce que je loue chez Déborah, c'est ce qui va se passer lorsqu'elle dit, elle entend la voix de Dieu, elle dit, Dieu a prévu la délivrance d'Israël. Ça fait combien de temps qu'elle est sous son arbre à écouter les gens qui pleurent? Et bien, malgré ça, elle a gardé son enthousiasme. Ouh ! Elle a gardé son enthousiasme. Elle m'entend des gens pleurer tous les jours. Et elle est capable de dire, je crois que mon Rédempteur est vivant et qu'il va se lever. Je crois que Dieu a des projets pour Israël et que ça ne va pas durer. Mais vous savez, vous avez de quoi vous taper la tête contre le caillou à force d'entendre des histoires tristes. Et puis elle se dit, non, ce n'est pas une fatalité. Je crois que l'Église a des soucis aujourd'hui. Je crois qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela. Mais je sais que Dieu nous fait aller de l'avant. Et je loue des personnes qui, alors qu'ils ont un quotidien oppressant comme ça, arrivent à garder leur enthousiasme. Moi, ma seule prière, honnêtement, hein, depuis une semaine, où je suis fatigué, je suis épuisé, parce que j'ai tout à la fois, tous mes conseils de classe, les âgés de l'Église, les prédications, la série, je suis pas bien. Et je dis, Seigneur, si jamais je veux une caractéristique du Saint-Esprit dans ma vie, je veux garder mon enthousiasme et mon côté positif. J'ai tellement de mauvaises nouvelles. Plus l'Église grandit, plus vous avez des responsabilités, plus vous avez des problèmes. Les soucis vont avec votre réussite. Et je dis, Seigneur, c'est trop lourd, mais je veux te demander une chose. C'est que quand j'entends quelqu'un qui me dit quelque chose de triste, eh bien, je puisse dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de bon derrière? Parce que sinon, je vais devenir comme tous ces leaders amers. Peut-être je parle à quelqu'un qui a abandonné son service un jour dans une église parce qu'il était devenu frustré, amer, aucune reconnaissance, jeté comme un malpropre. Ouh, c'est dur. Il ne faut pas être amer, mes amis. Le vrai leader, il dit, ouh, mon Seigneur sait et il y a un demain qui chante. Je connais les projets que j'ai formés. Oui, mais on l'a entendu 10 fois. Non, ce n'est pas grave, c'est dans la Bible. J'ai appris à être heureux dans toutes les situations. Vous savez, ce n'était pas inné chez l'apôtre Paul d'être de bonne humeur en prison. Déborah, je conclue ce point, elle était une leader qui a tenu le choc. Et qui a pris ses responsabilités, elle est devenue juge quand tous les hommes fuyaient leurs responsabilités. Mais elle sait que son appel, c'est d'être juge, d'accord? Je ne sais pas quel âge elle a, Déborah, elle ne doit pas être toute jeune, ça fait des années. En plus, elle a un travail assez sédentaire, je ne sais pas si physiquement elle est en forme. Mais du coup, quand elle entend la voix de Dieu qui dit « il y a une guerre qui va se préparer, on a besoin de... » Elle dit « ok, c'est Barak, il y a un homme qui tient à peu près la route dans le pays. » Éternel te dit, Barak, lève-toi, prends 10 000 hommes, vous avez la victoire au bout. En plus, elle valorise les autres. Vous voyez, parce qu'il y a une tentation aussi quand on voit que ça ne va pas bien. Je ne sais pas si quand vous voyez que l'Église ne va pas bien, il y a ceux qui critiquent, ouais, ça va, ça va bien. D'accord ? Et puis qui deviennent très amers. Et puis il y a aussi ceux qui disent, ça ne va pas bien, mais moi je vais le faire. Et je vais te montrer que si tu es nul à l'école du dimanche, c'est possible de réussir à l'école du dimanche si tu fais comme moi. Et du coup, elle aurait pu avoir la tentation de dire « Les hommes sont tous des nuls. Eh bien, je vais faire le job. » Et là, vous voyez, vous sortez de votre appel. Et vous commencez à, par mépris pour les autres ou juste parce que vous avez besoin de reconnaissance personnelle, vous allez dans un travail que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Et donc, Déborah... elle va dire à Barak, écoute, c'est toi que Dieu a appelé et il y a de la réussite au bout. Et Dieu est avec toi, Barak. OK ? Alors, deuxième point, on termine avec ça. On a eu l'excuse de tout qui est difficile. Là, l'excuse de « c'est pas mon problème ». Pourquoi je dis l'excuse du « c'est pas mon problème » ? Il y a deux excuses qui peuvent te faire éviter, fuir tes responsabilités. Premièrement, j'ai trop de soucis. Deuxièmement, c'est pas mon problème. Elle va voir Barak et qu'est-ce que Barak lui dit ? Qu'est-ce que Barak lui dit ? Le seul homme à peu près motivé de cette équipe. Barak lui dit « J'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, j'irai pas. » Attendez. Attends, qu'est-ce que tu me chantes là ? Moi, j'ai 54 ans, je suis juge en Israël. J'ai un petit peu des problèmes d'arthrose, tout ça. Et toi, tu veux que j'aille courir là sur les montagnes avec une épée et un arc et tout ? Mais tu m'as pas vu, Barak, ou quoi ? Moi, je suis Madame Déborah, je suis juge depuis des années. Eh bien, j'irai pas alors. Je vous dis quelque chose. C'est tellement bon que je ne sais pas si vous allez le comprendre ce matin, si je vais m'exprimer assez clairement surtout. Il y a deux catégories de leaders. Il y a ceux qui font le travail que vous devez faire. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui fuient leurs responsabilités et quand on vous demande de faire quelque chose, vous n'êtes pas capable de le mettre en place. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes, par exemple, qui donnent leur dîme, des personnes qui disent « voilà, je vais gérer mes finances comme ça, je vais gérer ma vie sentimentale comme ça, je vais être réglo ». C'est dur, mais ils le font. Et c'est les leaders qui font ce qu'ils doivent faire. Et ils ont le sentiment de dire « voilà, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je ne l'ai pas fait, etc. » Et on est sous le domaine d'une loi, mais consentie. Et puis il y a un deuxième niveau de leader. Parce que les pharisiens étaient à ce niveau-là. Les pharisiens donnaient la dîme de la menthe, du cumin, ils calculaient tout, ils appliquaient toute la loi. Et ils étaient justes. Et pourtant Jésus dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, c'est-à-dire que Jésus te dit, si tu fais ce que tu dois faire et que tu donnes, c'est bien. Mais si tu fais au-delà de ce qui est ta fonction de base, de ce qui est ton appel, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça que des hommes et des femmes ordinaires, comme Déborah, ont fait des choses extraordinaires. Je suis persuadé que Déborah n'était pas appelée à courir sur les montagnes derrière les guerriers ennemis. Mais je sais une chose, c'est que si elle l'avait pas fait, si elle l'avait pas fait, concrètement, vous donnez déjà, je ne sais pas moi, vous avez donné toute votre matinée à la garderie, vous sortez, vous êtes fatigué, les enfants ont pleuré, et il y a quelqu'un qui vous dit « Hey, il y a besoin de toi au service café !» Oh ! Un, tu me laisses souffler, et deuxièmement, ce n'est pas mon appel. Attends, j'ai signé pour la garderie et j'en ai pris plein la tête la matinée. Alors toi, tu as un besoin, et ben tu vas voir quelqu'un d'autre, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que je veux dire ? On le fait tous. Hein ? On le fait tous. Quand on est fatigué et qu'on a déjà fait ce qu'on devait faire, comment vous réagissez quand quelqu'un vous demande, comme Barak, de faire plus encore ? Ouh, c'est tellement bon que j'y vois Jésus là-dedans. Parce que Jésus a appliqué toutes les règles de la loi. Et Jésus, quand tu fais les règles de la loi, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Mais si tu fais au-delà, celui qui fait au-delà, il non plus il donne, mais il se donne. Et Jésus n'a pas donné, parce que la parole de Dieu, elle était déjà donnée. Et Dieu avait donné par les prophètes sa parole. Mais il y a un moment où Jésus dit, puisque leur donner ne suffit pas, je vais aller au-delà du nécessaire. Il y avait déjà les sacrifices, mes amis. Mais Jésus a dit, j'y mets ma peau. Je vais aller mourir sur la croix. Je vais me donner, puisque donner ne suffit pas. Et ça s'appelle la grâce. Oh, il y en a très peu. Mais ça s'appelle vivre sous la grâce. Si je fais ce que je dois le faire, c'est bien. Je donne. Si je fais au-delà, je me donne. Il y a quelqu'un qui payera le prix, mes amis. Sinon, la situation n'avancera pas. Une église ne peut pas tourner s'il n'y a pas des personnes qui se donnent. Une famille ne peut pas tourner s'il n'y a pas quelqu'un qui se donne. La France ne verra jamais le réveil s'il n'y a pas des hommes et des femmes, une génération, qui se donnent. Au-delà même de ce qui était normal de faire. Je sais que je ne parle pas à tout le monde ce matin et que la barre que je mets, c'est pour ça que je parlais de lait. Là, on n'est pas dans le lait spirituel, mes amis. Là, on est dans la nourriture solide. Pour certains, vous avez du mal à digérer le lait. Déjà, appliquez les bases de ce que Dieu demande de vous. Vous êtes parfois en retard sérieusement. Et là, Dieu dit, mais attendez, pour toi qui fais les choses bien, il y a mieux que bien. Je conclue là, j'ai pris trop de temps, mais c'est vrai que au temps des juges, regardez, Juge 5, verset 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, ils ont gagné, hein, parce que Dieu était avec Déborah. Elle a couru comme une gazelle, je ne sais pas quel âge elle avait, mais bon, elle a fait le travail, plus que ce qu'elle devait faire. Mais Dieu a béni cette attitude. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Yael, les routes étaient désertes. Les voyageurs suivaient des sentiers détournés. Tout le monde se planquait à cette époque-là. Les villes d'Israël étaient abandonnées, comme les églises. Hein. La vie avait cessé. Alors moi, Déborah, je suis intervenue comme une mère pour Israël. Le peuple d'Israël s'est choisi d'autres dieux et aussitôt la guerre venait jusqu'à ses portes. Ils ont 40 000 soldats en Israël. Il y a plein de monde dans l'église. Il n'y a pas un bouclier, il n'y a pas une lance. Mon cœur bat. J'ai de la passion, j'ai de l'enthousiasme. Pour les chefs d'Israël, pour ceux qui se sont offerts au sein du peuple pour le combat. Il y a quelques-uns qui ont mouillé le maillot. Moi, je vous donne juste cet exemple parce qu'il n'est pas là ce matin, donc je suis assez libre de le dire. Je vais être très concret. Vous savez, dans une église de 500 personnes comme on est aujourd'hui, avec 30% de croissance par an, il y a tout qui marche apparemment. Et par exemple, quand j'avais fait un appel aux travaux, j'avais dit voilà que tous les bricoleurs, les personnes qui ont à cœur, et attendez, sur 500 personnes, il y en a forcément des bricoleurs. Oh. Et le samedi matin, je me suis retrouvé tout seul. Alors que j'avais fait l'appel à tous les cultes. Et je vous en veux absolument pas, vous êtes une église géniale. Vous avez simplement dit, Dieu a certainement appelé quelqu'un d'autre, parce que ce samedi, ça ne me convient pas. Nanana. Et vous avez tous individuellement des très bonnes raisons de ne pas le faire. Parce que vous avez déjà tellement de choses à faire. Et que c'était au-delà. Et il n'y avait personne. Et il y a un moment où, si aujourd'hui on peut manger sur la terrasse, et si on peut faire tout ça, c'est parce qu'il y a un jeune homme, que je ne connaissais pas, John, qui est venu un jour où j'avais demandé à personne de venir. Il est venu tout seul. Il m'a dit, Yvan, j'ai amené mon matériel personnel et je t'ai construit ta terrasse. Enfin, j'ai construit la terrasse de Dieu. Il avait pitié de moi. Mais vous voyez, il y a un moment où ça demande une consécration. On ne peut pas le faire tous les jours, ça, d'accord ? Je ne vais pas devenir un pasteur abusif qui dit qu'il faut faire toujours au-delà. Non, non. Mais quand même, il y a des jours où tu peux faire plus. Tout le monde se dit, c'est les autres, ça tombe mal. Elle s'est levée quand les autres sont restés assis. Et d'ailleurs, dans son cantique, au verset 12, elle dit, debout. Elle parle à elle-même, hein, debout. Je ne sais pas si certains devraient se réveiller un peu, je sais bien qu'il est déjà 13h, mais debout, réveille-toi. Déborah intervient, debout, réveille-toi, entonne un chant de guerre, et toi, Barak, lève-toi, ramène tes captifs au fils d'Abinoam. Voici qu'un faible reste a triomphé des grands. Oui, le peuple de l'Éternel a maîtrisé pour moi les braves. Ceux qui ont vaincu Amalek sont sortis d'Éphraïm, Benjamin t'a suivi parmi tes troupes, de Makir sont venus ceux qui ont commandé, de Zabulon, ceux qui tiennent le bâton de commandement, les princes d'Issacar ont rejoint Déborah. Il y a 4 tribus sur les 12 qui sont bougées. Super, il y a la tribu de Zabulon, la tribu de Nephtali, la tribu de Benjamin, la tribu d'Issacar. Ils ont dit, ok, on y va. Quel était leur intérêt d'y aller? Zéro. Et puis je vois, pour terminer, je vois ce qui s'est passé à côté. Je vois que dans les rangs de Ruben, une autre tribu, on a délibéré et on a discuté sans fin. Tous ceux qui rigolent, c'est que vous connaissez quelqu'un qui est de la tribu de Ruben. Ou bien vous-même. Alors, Le problème, c'est qu'il va y avoir des blessés et on n'a pas un hôpital de campagne pour les recevoir derrière. Et puis franchement, est-ce qu'on est vraiment formé pour le combat, hein?
Oui, mais non, mais faut quand même y aller, il y a nos frangins dans la difficulté, faut se lever.
Oui, mais bon, moi, si mon fils, il meurt, comment je vais réagir? Et puis toi, non, 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 mais je sais pas. Et puis alors, il y a une telle, il y a la mamie qui lève la main, il y a le papa qui reprend, et machin. Et ils en ont parlé pendant des heures. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va pas y aller? Est-ce que le samedi, on est occupé? Est-ce que c'est mieux le dimanche matin ou le dimanche après-midi? Est-ce qu'il faut venir au premier culte ou il faut servir au deuxième culte? Vous allez discuter. Il y en a qui discutent pendant un mois, il y en a qui discutent pendant un an, il y en a qui discutent pendant 3 ans. Quand je vais les voir, j'ai dit, alors, tu fais quelque chose pour Dieu? Je prie, pasteur. C'est beau, ça fait 3 ans que tu pries, dis donc tu as une révélation comme ça au bout des 3 ans, j'espère. Parce que si ça fait 3 ans que tu pries et que Dieu ne t'a toujours pas parlé, soit tu es sourd, soit tu n'as pas prié. Mais peut-être que tu utilises un aspect spirituel pour cacher le fait que tu fuis tes responsabilités. Y a-t-il quelqu'un, alors qu'il n'a pas été convoqué, comme la tribu de Benjamin qui n'avait pas été invitée et qui est venue d'elle-même? Est-ce qu'il y a quelqu'un, comme la tribu d'Issacar, qui n'avait pas été convoquée et qui allait d'elle-même? Ou bien vous êtes plutôt comme le style, vous délibérez, vous réfléchissez. Ah ben, vous savez, ça j'ai aussi des fois, pasteur, vous savez, pour m'engager dans l'accueil, faut que je réfléchisse. D'accord? Un mois après, je réfléchis. Un an, je suis en train de réfléchir. T'es un super intellectuel, toi. Tout ce que t'as réfléchi, dis donc. Pourquoi es-tu resté au milieu des enclos à écouter bêler les troupeaux? Dans les rangs de Ruben, on a délibéré, discuté sans fin. Galaad est resté au-delà du Jourdain. Dan n'a pas bouché de ses vaisseaux. Il était parti en croisière, apparemment. Azer est demeuré près du bord de la mer. Il s'est cantonné auprès de ses ports paisibles. Il avait besoin de vacances, il était fatigué. Et le maître dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. On va fermer les yeux ensemble. Ouh, Jésus. Alors que les yeux sont fermés, je vous demande chacun de... C'est trop facile de dire c'est les autres, hein, qui ont un problème. L'œuvre de Dieu est limitée, non pas parce que c'est les autres, mais c'est parce que je la limite, moi en tant que pasteur. On peut tous avoir des moments d'émotion, on se lève pour Dieu, et on lui promet la lune et puis on ne lui donne rien. Alors est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui veut être sérieux, qui dit « Seigneur, je m'engageais avec toi. J'ai dit le jour de mon baptême que je te donnerai tout. Tout mon cœur, toute ma vie. Et à chaque fois qu'on me demande d'en faire plus, je trouve 1000 excuses pour dire non. Ésaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur qui disait, marchera pour nous. Alors je répondis, je suis prêt, envoie-moi.
Je te donne mon cœur. Prends mon âme, prends je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Je crois, je suis persuadé que, alors que la musique continue, il y a un moment où il faut quand même prendre nos responsabilités. Alors concrètement, tu vas changer quelque chose par rapport à la façon dont tu te comportes dans ta famille ? Est-ce que tu vas changer la façon dont tu te comportes au travail ? Est-ce que tu vas changer la façon dont tu gères tes finances par rapport à Dieu et par rapport aux autres ? Si tu as envie de changer quelque chose et que tu es prêt à en payer le prix, parce qu'il va falloir en payer le prix. Pour qu'il y ait des mères et des pères en Israël, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie. Est-ce qu'y a-t-il quelqu'un dans cette salle ce matin qui non seulement dit de ses lèvres « je te donne mon cœur », mais qui concrètement le met sur l'autel, quoi ? Si c'est ton cas, je te demande de te lever à ta place ce matin et dire « Seigneur !» Je vais pas être de ceux qui vont discuter sans fin, qui vont trouver 14 raisons de pas se lever, 14 raisons parce qu'il y en a d'autres, et puis j'ai déjà donné, et puis ceci, cela. Mais si tu te lèves, change quelque chose de concret. Je veux pas un moment d'émotion, je veux une décision.
Je te donne mon cœur, Seigneur.
Oh, alléluia.
Je donne tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur,
tout est pour toi,
tout est pour toi, Jésus.
Un parfum de valeur.
Parfum de valeur.
Voici mon cœur, je te l'offre.
Sur toi il est pendu.
C'est l'offrande de mon cœur.
C'est l'offrande de mon cœur.
Tout est pour toi.
Je suis à toi, Jésus.
Prends mon âme.
Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout.
Prends mon âme.
Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout.
Prends ma vie.
Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout.
Mon cœur est à toi, Seigneur.
Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Alors que nos cœurs sont devant Dieu, je voudrais demander, restez debout tous ceux qui avaient décidé de suivre Jésus dans les bons, les mauvais jours. Je demande aux frères de venir pour la Sainte Cène, mais on continue ce moment. Je ne veux pas qu'il y ait de coupure. Et la Bible dit, Jésus écrit avant de mourir, il dit, voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. C'est chaud, mes amis. Parce que s'il faut l'aimer, aimer les autres comme lui nous a aimés, c'est beaucoup, mes amis, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, parce qu'il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Amen.
C'est ça la Sainte Cène, mes amis, où il n'y a pas grand monde qui peut... Humainement, si on ne demande pas la grâce de Dieu, on n'est tous que des petits pharisiens. On a besoin de la grâce de Dieu.
Et Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Mais je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non ? C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit et du fruit soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Ouh, Jésus. Si tu veux prendre la Sainte Seine, lève-toi parce que tu t'es mouillé pour Jésus. Parce que tu te mouillerais encore aujourd'hui si c'était à refaire. Sinon, tu peux rester assis, il n'y a pas de jugement.
Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi.
Plus de ta ressemblance,
plus de ta ressemblance, plus de toi,
plus de compréhension,
plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi,
plus de toi,
plus de toi, Seigneur, plus de toi.
Plus de ta ressemblance,
plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi.
Plus de toi, Seigneur, on peut le dire tous ensemble ce matin. En quelques mots, plus de toi, plus de ta ressemblance dans ma vie, dans ce que je fais, dans ce que je pense, dans ce que je ressens. Plus de compréhension de ce que tu attends de moi, d'entendre ta voix. Plus de ta volonté dans ma vie, Seigneur, plus de toi. Ensemble,
plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi.
Plus de ta
ressemblance, plus de toi,
plus de compréhension,
plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi,
plus de toi,
plus de toi, Seigneur, plus de toi.
Plus de
ta,
que ce soit tes mots ce matin,
plus de compréhension de ta voix,
plus de compréhension
de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi,
plus de toi,
plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi,
plus de compréhension,
plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi,
plus de compréhension,
plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi.